Donc, si vous voulez bien, on va prendre le programme donc, à la ligne suivante. Et donc, accueillir Jean-François Desbien, qui vient de l'Université de Sherbrooke, et qui va nous parler, donc, en relation avec la thématique, des pratiques pédagogiques et de la réussite à l'université, donc avec un autre regard, comme vous pouvez l'imaginer. Et puis, François Reich interviendra ensuite un peu en commentaire par rapport à l'intervention et puis mise en relation avec le processus de Bologne. Donc, ce qui nous permettra de terminer la journée sur ces deux interventions.
Bonne fin d'après-midi. je m'appelle Jean-François Desbiens, je suis de l'Université de Sherbrooke. Je suis rattaché à la faculté d'éducation de cette université. Et comme ça s'entend, je suis québécois. Donc, j'essaierai d'être le plus clair possible, je vous rassure, je ne parlerai pas joual. Et je voudrais, avant de démarrer, remercier sincèrement le comité organisateur, plus particulièrement Laurent Cosnefroy, d'avoir eu la gentillesse de m'inviter pour partager ces deux journées avec vous. Je le remercierai également de m'avoir donné l'immense défi de clore une première journée très riche, très dense, et donc d'avoir le mandat de vous maintenir en haleine un peu. Je vais relever le défi. Alors, je vais vous parler, comme l'indique le titre de ma présentation, des pratiques pédagogiques et de la motivation et de la réussite à l'université. Évidemment, vous comprendrez que je n'ai pas la prétention de couvrir l'ensemble des pratiques pédagogiques. Vous verrez comment l'entonnoir va se rétrécir à mesure que je vais avancer. J'ai fait des choix. Je poursuivrai particulièrement deux objectifs. Le premier, bien sûr, c'est de jeter un certain éclairage sur ces relations entre pratiques pédagogiques adoptées par les professeurs d'université, la motivation, la réussite, comme le titre de mon exposé l'annonce, mais aussi je vais soulever un certain nombre d'enjeux méthodologiques, parce que si la recherche nous sert bien, elle peut aussi nous confondre. Je voudrais donc soulever quelques drapeaux au regard de ce que cette recherche peut nous dire. Donc, ce n'est pas une présentation scientifique à proprement parler. Oui, il y aura présentation de quelques résultats de recherche, mais elle se décline essentiellement, cette présentation, en 7 points, qui sont énumérés ici chronologiquement, donc je vais les suivre. Alors, je démarre avec cette citation tirée d'un rapport de la CREPUC. La CREPUC, vous ne savez pas ce que c'est. C'est la... Oui! Oh, bravo! Oh, je suis secoué! La conférence des recteurs et principaux des universités au Québec, parce que chez nous, l'éducation est provincialisée, ce n'est pas national, c'est délocalisé dans chacun des territoires, chacune des provinces. Et donc, cette citation, je l'ai trouvée particulièrement intéressante parce qu'elle marque un virage chez nous dans les préoccupations au regard de l'enseignement à l'université. Donc, vous savez lire, mais je vais quand même la lire. Donc, la persévérance et la réussite aux études ne reposent pas exclusivement sur les caractéristiques des populations étudiantes, ce qui a été fort bien couvert par ailleurs par d'autres collègues précédemment, mais également sur la qualité et la pertinence de l'expérience et du climat d'apprentissage que les établissements mettent à leur disposition. Les caractères en gras sont de moins, parce que c'est sur ces éléments que j'entends mettre l'accent dans cette présentation. Alors, premier point que je veux couvrir avec vous, de l'importance d'établir ce qu'est un enseignement de qualité, un enseignement efficace. Et vous serez déçus, autant que moi d'ailleurs, de la littérature que j'ai survolée. Ben, en fait, j'ai fait plus que la survolée, je l'ai lu pas mal. Et malheureusement, elle ne me permet pas de vous amener ici une définition claire et sans ambiguïté de ce que peut être un enseignement de qualité ou efficace, quel que soit l'ordre d'enseignement concerné. Donc, c'est un concept qui demeure vague, même à l'interne. Quand je dis à l'interne, ça veut dire à l'intérieur même d'un département ou d'une faculté, par exemple la faculté d'éducation à l'Université de Sherbrooke, où il est censé y avoir une vision consensuelle de ce que c'est apprendre, de ce que c'est enseigner. Non, 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 c'est tout sauf ça. Il n'y a pas de consensus. On s'obstine sur des questions fondamentales et on n'a pas trouvé encore, je dirais, de porte de sortie élégante pour tout le monde. Alors, c'est une notion vague. Et même le rapport de l'OCDE qui y était consacré n'a pu que conclure à la fin que c'était vague et qu'on n'était pas en mesure de définir clairement c'était quoi. On a souvent utilisé des critères pour définir qu'est-ce que c'était un enseignement efficace ou de qualité, mais ce ne sont pas des éléments définitoires, ce sont des critères par lesquels on peut arriver à juger. Donc, on va parler d'un enseignement de qualité ou efficace lorsqu'il sera question d'adéquation entre ce qui est fait et les attentes sociales. À l'intérieur du système de formation, que ce soit par les ordres professionnels chez nous qui posent un certain nombre d'attentes et de balises que les formateurs doivent suivre. On va parler aussi d'une formation de qualité ou efficace lorsqu'elle s'adapte et qu'elle s'améliore dans les conditions d'enseignement-apprentissage qui sont offertes, dans les services qui sont offerts, dans les programmes qui sont conçus à l'intention des étudiants et des étudiants. C'est comme ça le plus près qu'on peut approcher d'une définition. Vous conviendrez avec moi que ça n'en est pas une, là. Mais c'est à peu près le plus près qu'on a pu y arriver. Et je voudrais quand même rappeler que c'est une question qui est importante parce que dans la littérature sur l'efficacité de l'enseignement ou la qualité de l'enseignement, appelez-le comme vous voulez, on dit généralement que la variance expliquée, la proportion de variance totale expliquée par l'enseignement est à peu près de 20 %. Oui, il y a des débats, est-ce que c'est 15, est-ce que c'est 25? J'ai tracé une ligne à peu près à 20 %. Donc, ce n'est pas négligeable. C'est même très important. Et ça mérite donc une grande attention. De l'importance de comprendre comme à l'université, les PU, les professeurs universitaires, vous aurez compris, conçoivent l'enseignement. Un peu comme Hattie, mais ça ne lui appartient pas en propre, cette idée. Moi, je pense qu'enseigner est une disposition de l'esprit avant d'être un ensemble de techniques, avant d'être un ensemble de moyens pour faire apprendre, pour transmettre de l'information. Donc, l'enseignant rentre dans sa salle de classe ou intervient devant son dispositif web s'il fait de l'enseignement à distance en étant dépositaire d'un ensemble de croyances, d'un ensemble de valeurs qui vont donner une orientation à sa manière de voir l'acte d'enseigner et l'acte d'apprendre. Et donc, ces croyances et ces valeurs-là vont définir ce qu'on appelle en anglais son « mindset ». Ce mindset-là va l'amener à adopter un certain nombre d'approches de l'enseignement, soit-elles centrées sur le contenu, soit-elles centrées sur l'apprenant ou sur l'enseignement. Et ce qu'on sait maintenant, à partir de la documentation, c'est que les approches de l'enseignement que l'enseignant va adopter vont avoir pour effet d'orienter et d'influencer les approches d'études que les étudiants vont utiliser pour rencontrer les objectifs du cours. Et donc, c'est une grande responsabilité de faire des choix de stratégie d'enseignement, puisqu'on sait que les étudiants qui sont bien dociles vont chercher à nous satisfaire, voyez-vous, parce qu'ils veulent avoir la note au bout de l'expérience, voyez. Et ils vont se calquer en fonction des messages implicites qu'on va leur envoyer quant à la bonne manière de faire les choses et la mauvaise manière de faire les choses dans notre cours. C'est dit un peu durement, mais il reste que ça ressemble un peu à ça. Donc, notre approche de l'enseignement induit des choses chez les étudiants qui vont contribuer à définir leur approche d'étude. Et donc, c'est une assez grande responsabilité que nous avons. Et là, la question qui peut se poser, qu'est-ce qu'on peut faire ou commencer s'il est question d'essayer d'améliorer notre enseignement? Et là, je suis tombé sur un article récent de John Hattie, qui est professeur en Australie. Je ne sais pas si vous avez eu l'occasion de lire ce qu'il écrit, mais c'est assez inspirant. Et j'ai lu aussi d'autres sources et je me suis permis de recatégoriser les éléments que ces sources m'ont présenté, m'ont appris. Et donc, deux manières de catégoriser ça, deux voies. La première, donc, le premier élément, c'est une approche programme. Je ne sais pas si c'est un terme qui est en vogue chez vous, l'approche programme, mais chez nous au Québec, c'est ce qu'on appelle un « buzzword ». Vous connaissez l'expression « buzzword » Si tu ne prononces pas « approche programme » deux fois dans la même phrase, tu es « out », comprends-tu? Tu n'es pas là, là. Bon, alors « approche programme », je l'ai dit deux fois. Bon. On peut en rire, mais néanmoins, il y a quelque chose de très important, de très intéressant là-dedans. Alors, le premier point, c'est de dire, dans le cadre, plaçons-nous dans une perspective de rénovation de l'enseignement, adoptons une approche programme, et à l'intérieur de ça, essayons de dégager une vision claire du profil de sortie de l'étudiant. Vous allez me dire, mais c'est évident. Oui, mais moi, je viens de finir l'analyse des programmes de formation à l'enseignement au Québec, puis je peux vous assurer que les profils de sortie sont loin d'être si clairs que ça. Et si je faisais le tour des autres programmes en génie, ben peut-être pas en génie puis en médecine ou en droit, parce que c'est des occupations qui sont professionnalisées au sens de la sociologie des professions, mais dans d'autres domaines, je suis certain que je retrouvais la même chose, c'est-à-dire des finalités pas claires. On ne sait pas à quoi devrait ressembler le finissant après 3 années ou 4 années de formation. C'est assez tragique quand même, pensez-y. Donc, première étape, dégager une vision claire du profil de sortie de l'étudiant. Deuxième étape, s'inscrivant à l'intérieur de l'approche programme, faire collaborer les enseignants. Je ris, mais c'est pas drôle. Pour évaluer leur impact sur l'apprentissage. Parce que celles et ceux d'entre vous qui enseignaient à l'université savaient que la collaboration entre les enseignants est plus un souhait qu'une réalité, n'est-ce pas? Malgré beaucoup de bonne volonté de la part de certains et certaines. Pourquoi mettre tant d'accent sur cette question de la collaboration? Bien, voyez-vous, c'est que la collaboration peut avoir une grandeur d'effet de l'équivalent de presque 1, ce qui est énorme. Ça influence beaucoup, beaucoup, beaucoup la réussite quand les profs se coordonnent et collaborent. Et c'est pour ça qu'Cathy a insisté là-dessus. Bon, je poursuis. Là, on est parti de l'approche programme et on tombe au niveau des pratiques d'enseignement. Et là, il y a 5 éléments qui ressortent de manière particulière de la documentation. Premier élément, communiquer les critères de réussite dès le début du cours. Vous allez me dire encore une fois, c'est évident, mais combien de fois je parle à des étudiants qui me disent « Finalement, on ne sait pas trop qu'est-ce qu'il faut qu'on apprenne. On est un peu perdu, là. » Alors, donc, clairement, il y a une job qui ne s'est pas faite, là. Identifier les besoins d'apprentissage après évaluation et ajustement de son enseignement. Trouver un équilibre entre apprentissage en profondeur et apprentissage de surface, parce qu'on dit souvent, l'apprentissage en surface ne vaut rien, il ne faut pas faire ça, il faut se concentrer sur l'apprentissage à profondeur. Moi, j'ai des réserves là-dessus, puis je ne suis pas tout seul. Ça prend une certaine base de savoir de surface pour être capable d'aller en profondeur. Et c'est ce que beaucoup d'études semblent nous montrer. Donc, il faut trouver un équilibre. Maximiser le feedback aux étudiants. Et là, on insiste pour dire que ce n'est pas tant la quantité que la qualité de ces feedbacks. Et je parlerai même de contiguïté aussi, c'est-à-dire qu'il ne faut pas que le feedback soit trop éloigné dans le temps. Et finalement, viser la délicieuse incertitude. Je vois des yeux qui s'ouvrent. Ce n'est pas de moi, c'est de Csikszentmihalyi, repris par Brunel par la suite. Et ce que ça nous dit, c'est essentiellement, c'est que les profs doivent calibrer les tâches en fonction des capacités des étudiants qu'ils ont devant eux. Calibration qui est d'autant plus difficile qu'on n'a pas pensé à faire le point 2.2, c'est-à-dire identifier les besoins d'apprentissage après une évaluation. On en conviendra. Encore une fois, pourquoi se concentrer sur ces quelques éléments? Mais c'est parce que pour chacun d'eux, il y a une grandeur d'effet supérieure à 0.6, presque, mis à part le dernier. Néanmoins, ce que ça nous dit, c'est que ce sont de grands effets qui risquent d'avoir de grands impacts sur l'apprentissage de nos étudiants. Et moi, je regarde ça par répercussion, puisque je forme des maîtres. Si j'ai un grand impact sur mes étudiants, j'aurai finalement peut-être un grand impact sur les élèves de mes étudiants, voyez-vous. Donc, il y a une réaction en chaîne, là. Bon, donc il y a certaines pratiques qui méritent d'avoir notre attention et j'insiste pour dire que ces pratiques-là ne sont pas seulement vraies à l'enseignement primaire, à l'enseignement secondaire, au collégial chez nous, mais aussi à l'université. Ce sont des pratiques que je pourrais qualifier d'à peu près transversales. Et maintenant, je pense qu'il faut y réfléchir sous un autre angle. Et j'aborde un autre sujet. De l'urgence de mieux saisir le lien entre l'enseignement, l'engagement, la persévérance et la réussite aux études supérieures. Donc, vous me voyez venir avec mes grands chevaux. Le désengagement, c'est quelque chose qui est constaté dans la documentation aux études supérieures, spécifiquement aux études supérieures. C'est un problème qui est croissant. C'est croissant dans le monde anglo-saxon. C'est croissant au Canada. Puis je comprends que c'est croissant aussi ici. Je parlais avec un professeur tout à l'heure qui me disait, dans les amphis, il n'y a presque plus personne qui vient suivre les cours. C'est une forme de désengagement, ça, quand on ne va plus suivre les cours. Alors, c'est encore plus étonnant aux États-Unis quand on sait qu'on paye 20 000 $ par session pour aller à l'université, mais bon, c'est un autre problème. Et au Québec, ce qu'on note, c'est qu'il y a un décrochage assez important des étudiants avant l'obtention du baccalauréat. Là, le baccalauréat comprend une licence. OK, ça va. Donc, au Québec, c'est pire qu'ailleurs au Canada, puisqu'un tiers des étudiants et des étudiantes décrochent avant l'obtention de ça. Décrochage équivaut-il à échec? On a un collègue, des collègues tout à l'heure qui nous ont dit « attention, attention ». Ça ne veut pas dire qu'il s'agit d'échecs, mais toujours est-il qu'on les a perdus pendant quelques temps au moins. On les a perdus. Peut-être reviendront-ils, mais comme on n'a pas de suivi, on ne le sait pas. Et si on pensait que ce serait mieux en formation à distance, bien pour celles et ceux qui sont des tenants de ça, non, je vais vous décevoir, c'est pire. OK? 68 % de décrochage. Sur des vieilles statistiques, mais néanmoins, je pense que ça n'a pas tellement bougé. Et je comprenais, mais je comprenais en même temps que c'était des vieilles statistiques, mais qu'en France, la situation était aussi un peu difficile parfois. Donc, des échecs en première année d'université qui menaient à quand même une forte proportion de redoublement, une proportion quand même assez importante de réorientation, et finalement d'abandon. Que valent ces statistiques aujourd'hui? Je ne suis pas très familier avec la réalité française. J'ose croire qu'elles ne sont pas si loin que ça, quoique je puisse admettre que ça ait bougé. Bon. Donc, il y a quand même un phénomène qui se passe à l'université qui devrait nous amener à vouloir considérer qui devrait nous amener à revoir un peu la façon dont on enseigne, dont on forme, disons-le comme ça, la façon dont on forme à l'université. Il y a un certain nombre de constats qu'on fait. Et là, vous allez voir l'entonnoir devenir de plus en plus étroit à partir d'ici. L'enseignement magistral est un élément prédominant au Québec. Je sais que c'est vrai aux États-Unis, je sais que c'est vrai en Angleterre, ça l'est sans doute encore ici aussi. L'enseignement magistral constitue un facteur d'échec au premier cycle, c'est ce que j'ai pu lire dans certaines études françaises. L'exposé magistral va susciter des perceptions défavorables de l'utilité, du sentiment de contrôle, du sentiment de compétence, c'est ce qui a été vérifié chez nous à l'Université de Sherbrooke par Denis Bédard et Roland Viau. Et il y a certaines hypothèses à l'effet que le modèle pédagogique universitaire serait inadapté. Je pense que c'est vrai, mais je pense que ça n'explique pas tout. J'adhère donc en partie à ça. Mais c'est cette hypothèse que je vais exploiter maintenant, sachant fort bien qu'il y a d'autres éléments à regarder. Okay? Et là, je me permets d'attirer votre attention sur ce tableau qui nous dit, dans le fond, qu'effectivement, on aurait peut-être avantage à considérer d'autres formules ou méthodes pédagogiques que l'enseignement magistral, parce qu'il y en a qui produisent des effets assez forts, assez prégnants chez les apprenants. Hein, la discussion en classe, l'enseignement réciproque, les problèmes à résoudre, l'enseignement coopératif. Alors, pourquoi s'enfermer dans une seule formule ou méthode pédagogique? Pourquoi ne pas chercher à élever son registre, à le diversifier? Moi, je pense que ces questions-là méritent d'être posées. Alors, c'est ici que je vous présente quelques résultats de recherche où il sera plus particulièrement question d'exposé magistral et qui va me permettre de soulever des éléments qui vont répondre à l'un et l'autre objectif que j'ai annoncé en début de présentation. Ces résultats-là sont tirés d'une étude que j'ai menée avec mon collègue Anastasis Kozanitis de l'Université du Québec à Montréal. Étude menée dans les domaines du génie, de la réadaptation et de l'activité physique. 695 étudiants ont participé à cette étude, 20 professeurs d'université. On a fait une étude à partir de questionnaires validés, d'observations vidéo en différé, qu'on a analysé ensuite, ça veut dire 160 heures d'observation vidéo en classe. C'est en soi un atout parce que très peu d'études reposent sur des observations et des observations en plus longitudinales puisque nous sommes allés dans les classes à 3 reprises durant une même session de cours. Et donc, on s'est quand même mouillé là, dans la réalité des enseignants dans cette étude-là. Donc, quelques résultats. Oh, c'est petit, hein? Bon. Un premier résultat qui touche les approches pédagogiques privilégiées par les enseignants des classes que nous avons visitées. Et clairement, ce qui ressort, c'est qu'en proportion du temps, et là, quand je dis proportion du temps, c'est ce que nous avons codé comme tel par observation, ce n'est pas ce qui nous a été dit, là. OK? C'est évidemment l'exposé magistral qui ressort de façon nettement prépondérante. C'est une forme d'enseignement qui est utilisée davantage en génie, en tout cas dans l'échantillon qui était le nôtre, ensuite dans le secteur de l'activité physique, et dans une moindre mesure dans le secteur de la réadaptation. Mais néanmoins, c'était prépondérant dans les 3 secteurs. Alors, quand on s'est mis à regarder le même phénomène, mais non pas en proportion du temps, mais en termes de nombre d'épisodes, regardez bien ce qui se passe. Oups, là. Oui, regardez ici, par rapport à ici, qu'est-ce qu'on constate? On constate que si on regarde le nombre d'épisodes, la tendance est inversée, c'est-à-dire dans le secteur réadaptation, il y a plus d'épisodes de présentation d'exposé oral. L'activité physique reste dans le milieu, et c'est en génie qu'il y en a le moins. Ce que ça veut dire clairement, c'est que les profs de génie utilisaient l'exposé oral dans des blocs de temps beaucoup plus longs, donc une utilisation beaucoup plus massive de l'exposé oral, alors que les profs de réadaptation faisaient des plus petits blocs, mais plus fréquents. Et là, moi, quand j'ai constaté ça, il faut dire que mon arrière-plan théorique est ressorti un peu ici. Moi, j'utilise des approches d'écologie de la classe. Donc, on segmente tout ce qui se passe dans la situation d'enseignement-apprentissage. Sans ça, je ne m'en serais jamais rendu compte. Je vous le dis en toute franchise, là, c'est mon travers théorique qui m'a aiguillé vers ça. Et donc, qu'est-ce que ça veut dire? Je vous rassure, je ne passerai pas toutes ces corrélations-là les unes après les autres. Je veux juste attirer votre attention sur un certain nombre d'éléments, d'accord? Bon, je vous dis comment lire le tableau. Donc, dans la colonne de gauche, il y a 3 manières d'examiner comment les enseignants ont utilisé l'exposé oral, soit en proportion du temps total, en nombre d'épisodes et un ratio temps sur épisode. Ça va? Ça, c'est la colonne de gauche. Et sur la ligne du haut, ben, on a 4 éléments, le style d'interaction, les buts d'accomplissement, attente valeur et l'engagement, une mesure d'engagement sous l'angle de la participation verbale. Commençons par la perception du style interactionnel par les étudiants. Alors, ce qu'on voit, c'est que lorsqu'on utilise la proportion de temps total ou le ratio temps-épisode, il y a une relation négative entre la perception du style d'interaction de l'enseignant et l'utilisation de l'exposé magistral. Alors que quand on utilise... Oups, là, je me suis trompé, désolé. Quand on utilise le nombre d'épisodes, la corrélation qui était négative s'inverse, devient positive. Donc, la question que je me posais tantôt, mais quel impact est-ce que ça va avoir sur les résultats? Bien, ça en a un. Ça en a un qui semble quand même... Bon, c'est un impact qui est limité, ce sont de petites corrélations, mais quand même, elles sont significatives. Si on regarde les buts d'évitement, ici. Alors, les buts d'évitement, selon qu'on utilise le pourcentage de temps ou le ratio temps-épisode, montrent des corrélations positives. Le but d'évitement, là, clairement, juste en guise de rappel, c'est la stratégie minimax. Je veux avoir, pour le minimum d'effort, le maximum de bénéfices. Autrement dit, je ne veux pas m'investir. Hein? C'est ça, en gros, le but d'évitement. Et alors que lorsqu'on regarde... Quand on mesure le tout par épisode, pas significatif. Dernier élément que je veux montrer, évidemment, on pourrait passer énormément de temps là-dessus, c'est riche. Quand on regarde l'engagement, bien, sans surprise, lorsqu'on regarde le pourcentage de temps, bien, c'est une corrélation qui est négative. C'est un exposé magistral pendant que le prof parle, en principe, je ne parle pas. Sauf que ça peut être un peu plus interactif selon les contextes. Et cette corrélation devient encore plus négative, si on peut le dire comme ça, lorsqu'on utilise le ratio temps-épisode, mais elle est positive quand j'utilise le nombre d'épisodes. Donc, selon la façon que je regarde la réalité, je n'obtiens pas la même affaire. Et ce que ça pose comme question, c'est est-ce que quand on consulte la documentation, on nous dit tout ça? Je vais y revenir. Bon, je ramasse un peu plus de variables, puis j'essaie maintenant, dans une approche multivariée, d'essayer de condenser ça. Je vais vous aider à lire ces résultats-là, parce que ça peut être un indigeste, mais vous allez voir, on va faire du sens avec ça. Dans la partie droite du graphe ici, on a des indicateurs de participation verbale très faibles et faibles. On a des indicateurs de motivation très défavorables, parce que l'extension 1 nous dit que c'est très défavorable. Et on a des ratios temps sur épisode très élevés et élevés. Et associé à ça, on a quel programme ou quel domaine? Génie. Ce que ça nous dit, c'est que lorsque les ratios temps épisode sont très élevés à très élevés, c'est associé statistiquement à des conditions d'apprentissage qui sont défavorables. C'est associé à une perception de l'expérience scolaire qui est aussi défavorable. À l'opposé, quand on descend, j'ai de la difficulté avec mon pointeur, quand on descend en bas à gauche, on constate que les ratios temps-épisode très faibles et faibles sont à proximité d'un degré d'engagement de participation verbale qui est élevé, et c'est associé ici à des modalités liées à la motivation et au style interactionnel qui sont élevées aussi, ce qui nous dit que quand on utilise de façon moins concentrée l'exposé oral l'enseignement magistral, eh bien, on semble proposer aux étudiants, en tout cas, ils semblent percevoir une expérience plus satisfaisante et un climat plus satisfaisant. En haut à gauche, on voit que, associé à l'idée de participation verbale très élevée, donc à un très grand engagement dans la situation, il y a des paramètres motivationnels, eux aussi, très favorables, qui indiquent une expérience et une motivation qui est un climat qui est très positif. Je ne vais pas plus longtemps là-dessus, j'en viens à la discussion. Donc, souvenez-vous, la citation du départ, je reviens avec ça. On va la décomposer en deux plans. Premier plan, les profs d'université doivent se préoccuper de la qualité et de la pertinence, merci madame, la pertinence de l'expérience de formation. Donc, ça, c'est le premier élément que j'avais soulevé tout à l'heure à partir de la citation. Et là, qu'est-ce qu'on peut en dire? Bien, l'enseignement magistral est le plus utilisé à l'université. C'est ce que dit notre étude, mais c'est ce que dit bien d'autres études. Et l'enseignement magistral semble avoir une influence plutôt défavorable sur la motivation. Ça, on peut affirmer ça à partir des résultats qu'on a eus, mais également à partir de ce que la documentation scientifique nous en dit. Deuxième élément que j'extrais de la citation que je vous ai présentée, les professeurs d'université doivent se préoccuper du climat d'apprentissage en classe. Qu'est-ce qu'on apprend à travers cette présentation? L'enseignement magistral ne semble pas ou mal favoriser, d'une part, la qualité des interactions prof-étudiant et d'autre part, l'engagement des étudiants en classe. Or, on sait que le concept de climat d'apprentissage a pour centre, pour noyau, l'idée d'engagement, autour duquel il y a trois poignées différentes. D'une part, les relations prof-élèves, d'autre part, les activités d'apprentissage offertes, et ensuite, les variables de contexte que l'enseignant va manipuler pour essayer d'améliorer le dit climat. Okay? Moi, je pense qu'il faut demeurer critique face à la recherche parce que cette recherche, si elle nous informe, elle comporte aussi plusieurs sources d'imprécision. Je veux en mentionner quelques-unes ici. Dans un premier temps, je viens de vous montrer, à partir de résultats que nous avons obtenus, que la manière dont les pratiques sont étudiées par les chercheurs peuvent renvoyer à des messages différents. Et ma lecture à moi de la documentation m'indique ceci. C'est rarement assez clair pour qu'on puisse juger de quoi il est question. OK? Vous pouvez être en désaccord, vous avez le droit, mais c'est ce que moi je pense à partir des lectures que j'en ai faites. Donc, il faut faire très attention à ce qu'on lit. Il faut essayer de trianguler ou recouper ce qu'on trouve parce que ça se peut que ce qu'on a lu dans un article, qu'on soit obligé de le nuancer après. Bon, ça, c'est le premier point. Deuxième point, la manière dont les stratégies d'enseignement sont mises en œuvre par les enseignants ne sont pas standards. Et en fait, dans très peu d'études que j'ai pu consulter, on peut lire que le chercheur a entraîné les enseignants qu'il a étudiés à bien utiliser certaines formules pédagogiques ou certaines méthodes, ou encore, il a évalué dans quelle mesure les enseignants utilisaient correctement les dites méthodes. Donc, ce que ça veut dire, c'est que c'est extrêmement hétérogène. Et qu'il s'agisse que dans notre étude, on ait 20 profs qui aient utilisé l'enseignement coopératif, mais qu'ils l'utilisent maladroitement, à partir de ça, ben, on va avoir des conclusions qui vont refléter une utilisation maladroite de l'enseignement coopératif, voyez-vous? Donc, ces éléments-là sont, à mon avis, insuffisamment documentés dans la littérature et ça devrait nous amener à être assez prudents, toujours dans la lecture que nous en faisons. Ensuite, les outils stratégiques mobilisés ou non par les étudiants devraient être pris en considération. Et ça, c'est encore plus important quand on parle d'enseignement magistral, parce que les études sur l'enseignement magistral nous disent quoi? L'enseignement magistral tout seul a, je dirais, des travers importants au regard de l'apprentissage des étudiants et des étudiantes. Mais si les étudiants et étudiantes prennent des notes, déjà, on va augmenter la grandeur d'effet de 0,350 quelque chose. Si en plus on révise nos notes qu'on a prises après le cours, là on a une grandeur d'effet d'1,57. Qu'est-ce que ça veut dire donc? C'est que si on regarde juste l'enseignement magistral sans regarder alentour comment on a instrumenté ou outillé nos étudiants à composer avec cet enseignement magistral, on échappe des morceaux. Moi, maintenant, j'enseigne systématiquement à mes étudiants, parce que j'enseigne en première année, je leur enseigne systématiquement à prendre des notes. Ça devrait être acquis, vous me direz, là. Ça ne devrait pas se faire en première année universitaire. Il y a un besoin, là, donc je le fais. Ça ne veut pas dire que j'enseigne juste en magistral, mais il y en a du magistral. Mais si on n'instrumente pas nos étudiants parce qu'on n'a pas pris la peine de vérifier s'il l'était instrumenté. Donc, si on utilise une formule pédagogique qui est défavorable, elle va l'être d'autant plus qu'ils ne sont pas instrumentés pour jouer avec, pour composer avec ça. Donc, ces éléments-là sont, à mon avis, sous-développés dans la documentation et devraient, je l'espère après cette présentation, prises en compte par nous tous qui la consultons, cette documentation. Je termine, madame. En conclusion, il faut que nous améliorions nos pratiques pour améliorer la qualité et la pertinence de l'expérience et du climat d'apprentissage. Mais pour faire ça, ça demande un certain nombre de choses. D'abord, ça demande un engagement au plan individuel. Et cet engagement ne naîtra pas sans sensibilisation, sans réflexion. Ça prend aussi un engagement au plan collectif pour les raisons que j'évoquais antérieurement, c'est-à-dire que puisque c'est un collectif qui enseigne à nos étudiants, si le collectif ne se mobilise pas dans une direction relativement unitaire, ben, il va avoir du bruit sur la ligne, comme on dit chez nous. Dernier point, il y a quelques éléments critiques sur lesquels il faut travailler indépendamment des méthodes pédagogiques dont il est question. Et ces éléments-là sont, je pense, ceux que j'ai évoqués tout à l'heure.
donc les éléments relatifs à l'approche programme et ceux aux pratiques d'enseignement. Ces éléments-là sont robustes, bien documentés et sont transversaux indépendamment des ordres d'enseignement. C'est ma prétention, mais c'est également une prétention qui est partagée par d'autres auteurs dans la documentation. Et je terminerai là-dessus en disant, il y a encore du boulot. Merci de votre attention.